Ceci est la deuxième partie de la conférence de catéchisme pour adultes donnée le vendredi 14 février 2014. La première partie a été interrompue par un problème technique avec l'enregistrement en MP3. Donc je continue cette deuxième partie. Donc j'expliquais l'importance de la prière, l'importance de la vie d'oraison. On n'a rien compris à ce qu'est la révolution tant qu'on n'a pas compris justement que la révolution est la haine formelle de toute forme de vie intérieure. Et pour lutter contre cette haine de la vie intérieure, il importe d'avoir l'esprit d'oraison. Quelqu'un qui a l'esprit d'oraison est, je dirais, surnaturellement protégé contre l'esprit révolutionnaire. L'esprit révolutionnaire, c'est quoi? C'est liberté, égalité, fraternité. L'esprit d'oraison donne l'accès aux conseils évangéliques, à l'esprit des conseils évangéliques, pauvreté, chasteté, obéissance. Les pères, pour parler de cette oraison, utilisaient un mot, quelques mots très beaux. Quand ils parlaient d'esprit d'oraison, ils disaient que l'oraison, c'était la respiration de l'âme. De même qu'un corps qui ne respire plus meurt, de la même façon, une âme qui ne respire plus va mourir, va s'étioler puis mourir. Et donc l'esprit d'oraison est absolument indispensable. Encore une fois, quelqu'un qui passe vraiment 20 minutes ou une demi-heure d'oraison par jour sera protégé de l'activisme et du volontarisme. Puisque l'oraison est tellement importante, l'oraison représente donc la vie de prière dans son essence. C'est pour cela que l'oraison doit puiser sa source dans le sacrifice de la messe. Les deux prières officielles de l'Église catholique, peut-on dire, sont la Sainte Messe et l'Office divin. Et même l'Office divin avant la Sainte Messe. Je vous l'ai déjà dit souvent que le prêtre est obligé, par la récitation de l'Office divin tous les jours, sous peine de péché mortel, non seulement de l'Office divin, mais même de chaque partie de l'Office divin, un prêtre qui manquerait volontairement l'Office de sexte, par exemple, ou de prime, ou de tierce, ou de nonne, une petite heure, qui dure 5 minutes, eh bien, serait déjà un tas de péché mortel s'il le faisait volontairement. Eh bien, l'Office divin et la Sainte Messe vont donner en quelque sorte l'esprit d'Église à l'âme qui va pouvoir à ce moment-là vraiment faire oraison plus facilement. Donc, on peut dire que l'Office divin pour le prêtre et la respiration et la messe pour le prêtre et les fidèles vont permettre la vie d'oraison. Je peux que conseiller aux fidèles de tout faire pour lire au moins une partie de l'Office divin. On peut trouver chez les bouquinistes en 2 volumes le Bréviaire romain en français avec des annotations de Dom Gréa qui sont excellentes. Je parle bien sûr du Bréviaire traditionnel de Saint Pilice ou de Pie XII. Et si vous n'avez pas le temps, bien sûr, de tout lire, on ne peut pas demander aux fidèles de dire tout l'Office divin, ce serait trop long. Au moins, je peux vous conseiller, pour ceux qui le peuvent, de dire l'Office de prime, par exemple, le matin, comme prière du matin, ou l'Office de compline, le soir, comme prière du soir. Et aussi, pour avoir justement cet esprit d'Église et alimenter sa méditation, très bien, lire, il est très facile de lire les 9 leçons des matines de chaque jour. 9 ou 3 leçons dans certains jours où il n'y a pas de fête de saint, par exemple, ou un saint qui n'est que de rite simple. Et je vous assure que quelqu'un qui lit en français, par exemple, les 9 leçons du Bréviaire romain tous les jours, va alimenter sa foi et alimenter sa vie d'oraison. L'esprit d'oraison va également aider le catholique à comprendre sa dignité. Il y a un texte magnifique de Saint Léon le Grand, dans les matines de Noël, où il dit: Chrétien, souviens-toi de ta dignité. Nous avons été rachetés à haut prix, nous avons été rachetés par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, pour expliquer un peu ces choses-là, je voudrais utiliser un texte magnifique que j'ai résumé il y a longtemps dans une lettre doctrinale que. Toutes ces lettres doctrinales vont bientôt apparaître sur le site Dame Marie. Et ce que je vais vous lire maintenant, c'est un résumé d'un magnifique sermon donné par un prêtre qui est mort maintenant, l'abbé Bouteille, Michel Bouteille, qui a été aumônier de l'école de la Pérodière. Et ce sermon sur le lever d'un enfant catholique a été publié dans la lettre de la Pérodière numéro 254. Et ce sermon est magnifique. Mais Bouteille n'avait pas le don du tout de. Il n'était pas du tout un orateur, mais le contenu de ce sermon est extraordinaire. Et je voudrais analyser un petit peu ce sermon en utilisant son texte, qui s'adresse aux enfants, mais qui est parfaitement applicable aussi aux grands-enfants que sont les adultes. Et voilà un petit peu ce qu'il disait. Une partie vient de l'abbé Laffitte, une partie de l'abbé Bouteille. En général, ce qui est bien très bien dit, c'est l'abbé Bouteille. Ce qui est mal dit, c'est l'abbé Laffitte. Tout simple. La journée appartient à ceux qui se lèvent tôt, hein, dit le dicton. Il serait préférable pour un catholique de dire la journée appartient à celui qui se lève sous le regard du bon Dieu. On dit que la nature a horreur du vide et que si on remplit pas son âme avec le bon Dieu, eh bien on va remplir son âme avec celui qui va prendre la place du bon Dieu immédiatement dans une âme, à savoir le démon lui-même. Un petit catholique, créature de Dieu, se doit donc d'offrir les prémices de ses pensées, c'est-à-dire les premières pensées de sa journée, le premier mouvement de son affection et de son cœur à son Créateur. L'offrande de la journée et la prière du matin ont donc une place fondamentale dans la vie d'une âme baptisée. Hein? Si on commence sa journée avec le bon Dieu, on va vraisemblablement passer toute la journée avec le bon Dieu. Si on commence sa journée sans le bon Dieu, cela veut dire dans la pratique qu'on commence sa journée avec le démon et on va passer la journée sans le bon Dieu, c'est-à-dire dans la pratique, on va passer sa journée avec le démon. Pourquoi? Parce qu'une journée qui commence sous le regard de Dieu est une journée qui a de très fortes chances de se passer et de se terminer sous ce même regard. Mais une journée qui commence sans le bon Dieu sera certainement une journée de païen, c'est-à-dire une journée gâchée par la mauvaise humeur, par l'égoïsme, par le péché. Et ceci est très important, surtout pour ceux qui ont charge d'âme, pour nous prêtres et aussi pour les parents. Les parents comprennent impérativement leur devoir d'État, gravissime, d'apprendre, de donner l'habitus de la prière du matin à leurs enfants. Les enfants ne regardent pas tout seuls la prière du matin, surtout quand ils sont petits, il faut les habituer à garder cette prière du matin. Et donc là, le travail des parents est absolument fondamental pour leur donner cette habitude de la prière du matin. Une maman catholique se doit donc de vérifier que cet acte essentiel dans la vie des âmes que Dieu lui a confié est fait et bien fait. Et c'est le cas, pas simplement pour les enfants, mais également pour les parents. Les parents qui disent pas leur prière du matin sont en général des anciens enfants qui n'ont jamais appris à faire la prière du matin, à la garder tous les jours. C'est évident qu'il vaut beaucoup mieux une prière du matin très courte, même si elle ne consiste qu'en une simple offrande de la journée avec les trois Je vous salue Marie du matin, mais quotidienne, qu'une prière beaucoup plus longue mais de fréquence irrégulière. D'où la nécessité de la prière du matin pour justement permettre la vie d'oraison. Alors, au niveau du réveil d'abord, pour montrer comment, je voudrais montrer avec ce texte de l'abbé Bouteille comment la régularité de la prière au cours de la journée va permettre cette vie d'oraison. Donc, les pères de l'Église ont souvent comparé le réveil du matin d'un chrétien à une résurrection ou à une conversion. C'est-à-dire le passage de l'état de péché à l'état de grâce. La vie renaît. La nuit, l'âme était dans l'obscurité, plus exactement le chrétien était dans l'obscurité, l'impuissance, l'inaction, mais avec l'arrivée du matin, le corps tressaille et l'âme semble revenir comme d'un lointain voyage pour se retrouver chez elle. Nous reconnaissant comme créature, nous devons reprendre dès le réveil le contact avec notre Créateur, car nous avons été créés à son image et à sa ressemblance. La prière, élévation de l'esprit et du cœur vers Dieu, est comme le cordon ombilical qui nous unit à celui qui nous maintient dans l'être. C'est pour ça qu'on peut dire que la prière, c'est vraiment la respiration de l'âme. De la même façon, on peut dire que le bébé, le fœtus, dans le sein maternel, va vivre, va survivre, va respirer littéralement par l'intermédiaire du cordon ombilical. Eh bien, de la même façon, l'âme va respirer justement par la vie de prière. Si on coupe le cordon ombilical dans le sein de la mère, eh bien, l'enfant va immédiatement mourir. De la même façon, une âme qui ne prie pas est une âme qui va se dessécher, qui va mourir. Alors, il faut faire très attention, pas penser ce que parfois certains adultes disent ou pensent, que la prière du matin, c'est uniquement une histoire d'enfant. Non, les adultes aussi doivent avoir la prière du matin. Donc, commençons par cette offrande de la journée. Attention à ce que la prière du matin aussi soit correctement dite. Donc, deux choses importantes pour tous ceux qui ont la santé pour ça. D'abord, on ne fait pas sa prière du matin au fond de son lit. C'est évident, on fait sa prière du matin à genoux au pied de son lit. Pour ceux qui ont des problèmes de genoux, ou d'âge, ou de vieux os tout craquants, bon, il est évident qu'ils peuvent dire la prière du matin assis, mais en principe, la prière du matin se fait à genoux au pied du lit. Je ne sais plus si je vous l'ai déjà dit, mais il y a parfois des gens qui restent au lit en disant ben, je reste un peu au lit pour voir si j'ai encore un peu de sommeil. Ben, c'est sûr qu'avec des choses comme ça, ben, on ne fait pas de prière du matin. On avait un séminariste comme ça, je me rappelle, il était toujours en retard à l'office de prime le matin et il se faisait régulièrement remonter les bretelles par le directeur du séminaire qui était à l'époque l'abbé Berthaud, Berthaud, un prêtre suisse, un très saint prêtre. Et régulièrement, il se faisait attraper par l'abbé Berthaud, ce séminariste, parce qu'il arrivait en retard. Et son excuse était toujours la même. Ah ben, je me suis levé quand j'ai entendu la cloche à 6 heures, mais je me suis couché pour voir si j'avais encore un peu de sommeil. Évidemment, il se rendormait, puis il se réveillait pour le petit déjeuner. Alors, vous pouvez utiliser pour la prière du matin la magnifique offrande de la journée préparée par le pape Pie XI. Vous la connaissez, je vous la lis. Divin cœur de Jésus, je vous offre par le cœur immaculé de Marie mes prières, mes œuvres, mes joies, mes souffrances de cette journée, en réparation de mes péchés, à toutes les intentions pour lesquelles vous immolez continuellement sur l'autel. Je vous les offre en particulier pour telle intention. On peut vous rajouter trois Je vous salue Marie, par exemple, pour notre Père, un Je vous salue Marie, un Gloire au Père. Important. Alors, il faut bien noter que la fin de la prière, c'est la même que les quatre fins de la messe. Les fins de la prière et les fins de la messe sont identiques. Donc, la fin d'adoration, la fin latrotique, la fin d'action de grâce, la fin eucharistique, la fin de réparation ou de propitiation, la fin propitiatoire, et enfin la fin impétratoire pour demander les grâces nécessaires. Donc il faut prier au réveil d'abord par amour pour Dieu. Donc la fin la plus importante, attention, c'est la fin propitiatoire, la fin de réparation. C'est celle-là qui est niée par les prophètes protestants d'ailleurs. Mais donc hiérarchiquement, la plus importante, c'est la propitiatoire. Dans l'ordre du temps, la première, c'est la fin d'adoration. Quand on se lève, on tombe à genoux et on adore son Rédempteur. Il faut prier au réveil d'abord par amour pour Dieu. Si les gens du monde, sitôt levés, pensent d'abord à leurs affaires, à leurs plaisirs, le chrétien, lui, doit d'abord penser à Dieu, car personne ne mérite notre première pensée plus que lui. Donc que notre première parole à Dieu soit pour lui dire d'entrer dans notre âme et d'y agir à sa guise, comme s'il était chez lui. Si le péché originel n'avait pas égaré la direction de nos facultés, ce mouvement serait chez nous comme instinctif, comme celui d'un enfant qui, dès le matin, se précipite dans les bras de son père ou de la plante du tournesol qui se tourne naturellement vers le soleil. On voit souvent cette image du tournesol qui suit le soleil au cours de la journée et qui va tourner pour rester toujours dans l'axe du soleil. Mais c'est un peu l'image de l'âme catholique qui doit toujours garder son âme tournée vers le bon Dieu pour refléter la bonté divine. Alors l'orgueil et l'esprit d'indépendance séparent l'homme de Dieu. La position à genoux, au contraire, de la prière du matin traduit l'humilité et l'obéissance, vertus qui rapprocheront les enfants de Dieu en leur rappelant leur situation de dépendance. Donc deux choses importantes pour toute prière, surtout la prière du matin. D'abord, c'est la position à genoux pour nous rappeler notre situation de dépendance. Je suis devant Dieu, je ne suis pas devant n'importe qui. Et deuxièmement, attention au signe de notre rédemption par laquelle nous commençons notre prière, à savoir le signe de la croix, que ce ne soit pas un chasse-mouche, que ce soit quelque chose de bien fait, bien dit, avec les paroles bien dites, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Donc attention, commencez par ça, souvent pour ceux qui ont du mal avec la prière du matin, commencez par la position à genoux et pas vautrer sur son lit, mais la position à genoux normale, bien faite, et le signe de croix. Et ce signe de croix nous rappelle que nous sommes dans une situation de dépendance et que nous avons été rachetés par la croix. Et puisque nous avons été rachetés par la croix, eh bien notre Seigneur Jésus-Christ a un droit strict sur nous et nous avons des devoirs. Les animaux, même nouveau-nés, sont très souvent capables de se débrouiller par eux-mêmes, dès la sortie du sein de leur mère. Mais le petit homme ne peut rien par lui-même et il faudra souvent au moins 20 années de soins attentifs de ses parents pour en faire un homme. Donc, première fin de la prière, il faut prier par adoration. Deuxième fin et troisième fin, la fin eucharistique, la fin d'action de grâce et la fin propitiatoire, la fin de réparation. Réparation, propitiation, satisfaction sont des mots synonymes. Donc il faut aussi, dès le réveil, prier par reconnaissance, fin eucharistique ou action de grâce, et propitiation, par fin, pour une fin propitiatoire, une fin de réparation. Nous nous réveillons en général plein de vie. Mais combien d'entre nous, combien d'autres personnes se sont endormies comme nous et elles se sont trouvées le lendemain dans les bras de la mort? Nous sommes pleins de santé, mais combien se sont réveillés dans la souffrance, la maladie et même l'infirmité? Nous sommes dans la joie et tout nous sourit, mais combien le réveil n'ont rencontré que la misère, le chagrin et la pauvreté? Nous nous réveillons, espérons-le, innocents et vertueux, le souffle de la grâce soulevant notre âme vers le ciel, mais combien se réveillent avec le poids du péché sur leur conscience? En face de tant de bienfaits, notre première action ne doit-elle pas être l'action de grâce et notre premier mouvement ne doit-il pas être de dire « Merci, mon Dieu ». Quand on reçoit un cadeau, la première chose qu'il faut faire, c'est dire merci à notre bienfaiteur. Un enfant qui reçoit un cadeau et qui est incapable de dire merci n'est pas digne de ce cadeau. Eh bien, lorsque nous nous levons le matin, nous avons besoin de recevoir une fois de plus ce cadeau de la vie. On aurait pu être mort, on a pu mourir pendant la nuit, on est vivant pour adorer le bon Dieu, d'abord et avant toute chose. C'est pour cela que le bon Dieu nous a mis sur la terre. J'ai été créé pour louer, honorer, servir Dieu et sauver mon âme. Enfin, quatrième raison de la prière, il faut prier des réveils pour donner à notre journée une bonne direction. Ce qu'on appelle la fin impétratoire, la fin de demande de la prière. Petere en latin veut dire à demander. Donc attention à ce réveil. Si c'est comme une flèche, si vous voulez, qu'il faut bien diriger dès le départ. Si la flèche est bien dirigée par l'archer, eh bien elle va se maintenir sur une bonne trajectoire. Si au contraire la flèche n'a pas été bien dirigée par l'archer, au moment où elle quitte l'arc, la corde tendue de l'arc, eh bien elle va partir n'importe où. C'est la même chose avec notre âme. D'où la fin impétratoire pour bien se rappeler les raisons pour lesquelles nous sommes sur la terre. Pour demander des bonnes choses, la première chose qu'il faut demander, évidemment, c'est le salut de notre âme. Notre âme, à son réveil, est comme une page blanche, sur laquelle rien n'a encore été écrit à ce jour. Inscrivons-y la croix pour nous mettre en service de Dieu, au service de Dieu, et cela se fera en prononçant les noms des trois personnes de la Sainte Trinité. Donc il faut invoquer les noms de Marie, de Saint-Joseph, de Sainte-Vierge-Marie, Saint-Joseph, notre ange gardien, après celui de Jésus, et cela sera nous placer immédiatement parmi la Sainte Famille du Ciel, comme notre réveil nous replace au sein de notre famille de la Terre. Je me réveille dans une famille qui s'occupe de moi, ou avec lesquelles j'ai des relations, et de la même façon que je me réveille en tant que membre de l'Église militante, je me réveille dans le cadre d'une armée à laquelle j'appartiens, l'armée des soldats de notre Seigneur Jésus-Christ, avec un lien en plus avec l'armée de l'Église triomphante au ciel, les élus. Que d'autres, à la même heure, se repaissent de leurs pensées sacrilèges et impures, pauvres âmes sans foi ni mœurs, qui commence sitôt à ouvrir la porte aux démons et aux péchés, et pour avoir versé le matin cette liqueur empoisonnée dans leur cœur, en garderont jusqu'au soir une odeur de mort, tandis que les chrétiens, remplis et empreints dès lors de l'onction divine, seront pour tous ceux qui les approcheront la bonne odeur de Jésus-Christ. Certains saints avaient reçu cette grâce du bon Dieu de sentir la grâce sanctifiante dans une âme. Au contraire, de sentir la mauvaise humeur des âmes qui vivaient en état de péché mortel. Ils avaient une espèce de répulsion naturelle contre le péché. Ils le sentaient, ils pouvaient voir sur la face de la personne à qui ils parlaient si cette personne était en état de grâce ou en état de péché mortel. Ensuite, le lever. Parlons un petit peu du lever. Ceci, voilà, pas simplement, encore une fois, pour les enfants, mais également pour tous les catholiques. Il importe de connaître ses besoins en sommeil. Les anciens disaient que pour la jeunesse, un trop long sommeil ne servait qu'à l'amollir, à l'exposer aux révoltes du corps. Il est évident que la paresse au lit favorise chez les jeunes, surtout les jeunes garçons, les tentations d'impureté. Je pense qu'il y a deux choses sur un niveau éducatif. Je m'excuse de donner des détails un peu directs, mais il faut le savoir. Deux choses que les jeunes garçons, les jeunes adolescents, les grands adolescents, garçons, donc, doivent absolument éviter. Première chose, c'est traînarder au lit le matin alors qu'ils sont réveillés. Ils sont réveillés, on se lève. Sinon, la tentation d'impureté arrive en général. Et c'est la même chose. Deuxième chose, à mon avis, à éviter aussi soigneusement, c'est les bains prolongés dans une eau très chaude qui aussi pourront pousser très facilement à des tentations d'impureté. C'est pour ça qu'il vaut mieux pousser les jeunes à prendre un bain, de simplement prendre une douche et pas trop chaude pour que la douche ne dure pas trop longtemps. Éviter les tentations. C'est Sénèque, le philosophe, qui déclarait « Déshonorer celui qui dort encore quand le soleil est déjà haut ». La seule excuse, les seules excuses du sommeil prolongé sont la maladie, une grosse fatigue ou une santé fragile qui exige le repos. Et alors attention, soit parfois trop souvent, mais c'est arrivé quand je visite certaines familles catholiques, j'allais par exemple le samedi matin vers 11 h du matin pour visiter la famille, pour une chose ou une autre, et puis je me rends compte que les adolescents sont encore au fond de leur lit, quoi, en train de traînarder au lit, c'est pas normal, pas 11 h du matin. Il est dit dans l'Évangile que notre Seigneur était matinal. Se levant de grand matin, il sortit et il se mit en chemin. Trop de sommeil peut conduire à l'indigence des biens de l'esprit et du cœur. Au contraire, c'est celui qui se lève matin qui se procure les vrais biens. Ceci dit, attention, il y a des gens qui ont besoin de sommeil. Bon, les gens qui ont besoin de 5 heures de sommeil, il faut qu'ils les prennent. Les gens qui ont besoin de 8 heures de sommeil, il faut qu'ils les prennent. L'heure du lever est venue, il faut se lever promptement. Les parents doivent veiller à cette promptitude. Encore une fois, rester au lit par paresse est un danger, car de cette paresse viennent les somnolences sensuelles qui se transforment vite en tentations pour produire trop souvent leurs fruits volus et naturels, à savoir le péché. Le démon, en effet, qui comme Dieu a le goût des prémices, surveille assidûment ses premières heures de la journée et fait aisément et souvent de magnifiques butins. Il faut donc pousser nos enfants à se lever avec courage, rapidement, s'entraîner, en faisant de cet acte pénible un sacrifice chrétien pour témoigner à notre Seigneur qu'on l'aime. Donc les parents doivent aider les enfants à se lever rapidement. Dès que le réveil sonne, l'heure de se lever est arrivée, on se lève debout, on ne traîne pas au fond du lit. J'ai appris ça quand j'étais gamin, chez moi, à la maison, il n'était pas question de traînarder au lit. Maman disait ça une fois, deux fois, puis c'était terminé, il fallait se lever. Je suis sûr qu'il y a des moyens très efficaces pour réveiller les enfants qui ne veulent pas se réveiller dans ces cas-là, surtout les jeunes adolescents, ils ne veulent pas se réveiller, ils restent au fond du lit, on les prend par la peau du cou, on les amène à la salle de bain et on met leur visage sous le jet de la douche froide. Je suis sûr que ça les réveille. Ils font ça une fois, deux fois, après ils comprennent et ils se lèvent rapidement quand on leur demande de se lever. Il faut donc pousser nos enfants à se lever avec courage, rapidement, s'entraîner. Heureuse en effet la journée dont la première action est un sacrifice à Dieu qui commence par le signe de la croix. Ainsi, dès la première minute de la nouvelle journée, nous participons à la passion du Christ en l'aidant à porter sa croix. À chaque fois qu'on fait un signe de croix, dans un acte d'adoration, surtout à genoux, eh bien on participe au plan de rédemption de notre Seigneur Jésus-Christ sur nous. Jeune homme, jeune enfant, levez-vous, dit notre Seigneur, qui ressuscite une enfant de 12 ans. Voilà ce qu'il fait chaque matin auprès de notre lit. Il nous commande, mais il nous aide. Une main divine nous est tendue, saisissons-la, adorons-la et laissons-nous soulever par cette main. Nous la retrouverons un jour, cette main divine. À la fin du monde, elle se tendra de nouveau vers nous et Jésus nous dira « Levez-vous ». Ce sera alors le réveil suprême, le réveil à la lumière, à la gloire, à la vie. Ce sera le lever glorieux, le lever des vainqueurs appelés à la couronne impérissable, car ce lever s'appellera la résurrection. Et le jour nouveau qu'il montrera à nos yeux sera le jour de l'entrée au royaume des élus. Vous voyez, comme toutes ces choses sont importantes, on n'y fait pas assez attention. Vous savez, il y a toute une série d'habitudes qu'il faut garder. On prend souvent comme exemple, un exemple tout simple, prenez une feuille de papier, pliez-la en deux, marquez bien la pliure et essayez de rouvrir la feuille et de faire disparaître la pliure, c'est impossible. Le papier reste marqué, comme l'argile, si vous voulez, qui a été piétinée, une marque de pas est dans l'argile, ça sèche, c'est fini, on ne peut plus l'enlever. Eh bien, c'est la même chose dans la vie de prière. Donc il faut demander au bon Dieu surtout cet amour de la prière. Malheur aux enfants, malheur aux parents, malheur aux adultes qui prient par pure obligation. Quelqu'un qui prie par pure obligation ne recevra pas les grâces dont il a besoin. Ça, c'est sûr que non, parce qu'il va lui manquer les choses les plus importantes. Et donc il faut vraiment demander au bon Dieu ces grâces. Alors, je vous assure que ces choses doivent s'apprendre chez les tout petits. N'oubliez pas qu'un enfant est achevé d'imprimer à l'âge de 5 ans. Si on attend 12, 13, 14 ans, c'est fini. Hein. J'aurais eu bien un séminaire, des séminaristes qui étaient pourtant des braves séminaristes, qui n'avaient pas pris certaines habitudes de discipline alimentaire, comme savoir faire leur lit le matin ou s'habiller en vitesse le matin, être prêt rapidement, avec énormément de mal à être à l'heure le matin, et leur chambre ressemblait à un champ de bataille. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient jamais appris à faire leur chambre ou à se lever promptement le matin. Donc, attention à ces choses-là. Donc, nous verrons tout ça, continuons un petit peu ce texte qui est magnifique. Je n'ai pas entièrement terminé. Il reste quelque chose à dire sur le vêtement, la façon de s'habiller, etc. Donc, tout ça, ce sont des aides pour la prière. Je vous rappelle que ces habitudes naturelles. Hein, savoir se lever le matin correctement, ce sont des habitudes naturelles qui vont permettre l'implantation des habitudes surnaturelles plus facilement. Rappelez-vous la grande règle, la grâce ne détruit pas la nature. Donc quelqu'un qui n'arrive pas à suivre la loi naturelle, ben, aura un mal fou à suivre la loi surnaturelle, c'est absolument évident. Hein, donc attention, la paresse est une caractéristique particulière du monde moderne dans lequel nous vivons. Hein, donc, faisons attention à ces choses-là et mettons tout ça au service du bon Dieu. Donc voilà pour aujourd'hui. Donc Dieu, si Dieu veut, donc vendredi prochain, nous aurons le prochain cours. Donc ce sera le 21 février. Donc travaillez bien ces cours. Hein. Tous ces cours sont importants. La dernière partie du sacrement, excusez-moi, la dernière partie des cours sur le catéchisme, sur la prière, la prière, les vertus, est une partie très importante, une partie qu'on a un peu tendance souvent à passer un peu, lequel on a tendance à passer rapidement. On oublie que ce sont des choses vraiment vraiment importantes. Donc demandons vraiment à la Très Sainte Vierge Marie qu'elle nous aide à comprendre toutes ces choses. Et je suis sûr que les enfants qui ont été élevés dans cette union avec notre Seigneur Jésus-Christ apprennent beaucoup plus vite l'importance du travail de la grâce. Voilà, nous allons terminer par une petite prière. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Joseph, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il.